concernant le placement au secret. Donc, comme cela a été dit tout à l'heure, cette personne a toujours accès à son avocat, même lorsqu'elle est placée au secret, que l'avocat ait été commis d'office ou qu'il ait été choisi par le député. L'avocat sait toujours où se trouve la personne détenue et y a toujours accès, même lorsque celle-ci est placée au secret. En revanche, ce sont les parents et autres proches qui ne peuvent pas communiquer avec cette personne. Quant au mécanisme de prévention de la torture, il est important de préciser que ce mécanisme collabore avec d'autres institutions, y compris avec la nôtre. Les défenseurs publics doivent faire un travail de contrôle des centres de détention du pouvoir judiciaire en transit ou à titre permanent. La défense publique a un accès sans entrave. Quant à la formation, malheureusement, le son de l'orateur est très très mauvais.
En cuanto a la formation,
Pour ce qui est de la formation, je m'occupe de superviser la formation de la défense du public. La formation initiale existe pour la judicature, la défense publique et les fonctionnaires du procureur. Il y a toujours un cours sur les droits de l'homme. Et donc toutes les institutions, toutes les conventions y sont passées en revue, notamment la convention sur la disparition forcée. Et dans le cadre de la formation des juges, on est toujours en communication avec les corps de la police administrative pour pouvoir se former de part et d'autre. Donc les magistrats forment la police et la police forme également le pouvoir judiciaire. Et on aborde la prévention de la disparition forcée. Pour ce qui est du concept de victime, il faut préciser que le concept de l'article 70 du Code de procédure pénale est un concept qui vise à définir la victime. Mais cette définition n'est pas nécessaire pour intervenir dans d'autres circonstances. Donc une personne, même si elle ne correspond pas à la définition de victime prévue à l'article 70, lorsqu'elle est victime d'une disparition forcée, même indirectement, elle peut accéder au service. Si la personne est privée de liberté ou est à l'intérieur du système pénitentiaire, bien sûr, mais aussi lorsque elle le souhaite, elle peut aussi s'adresser aux défenseurs de la population. Donc, tous ces services sont gratuits. Et elle peut s'adresser bien sûr aux défenseurs de la population, mais aussi au procureur en tant que quantité d'enquête. L'article 70 est un concept qui permet de formaliser, mais il n'empêche pas que dans d'autres procédures judiciaires, les personnes qui peuvent démontrer qu'elles ont un intérêt légitime puissent également accéder à la réparation. Réparation qui doit être, en vertu de l'article 41 de la Constitution, intégrale. Donc ce n'est pas seulement une indemnisation pécuniaire. Comme il s'agit de procédures plénières, exhaustives, on peut demander réparation de différentes natures. Restitution, non-répétition, indemnisation aussi. Alors, comment les victimes peuvent-elles accéder aux réparations? Il y a deux moyens. La voie administrative, par une plainte, qui évidemment suit la procédure avec le principe d'informalité. La personne n'a pas besoin d'un avocat pour pouvoir demander son indemnisation. Et les décisions administratives peuvent être interpellées auprès du tribunal administratif. Ou sinon, elle peut également s'adresser à toute autre branche du droit. Pour les réparations, ça serait le droit civil, en démontrant bien entendu qu'elle a un intérêt légitime à la cause. Et c'est aussi le cas, évidemment, auprès du tribunal administratif qui est soumis à contrôle juridictionnel. S'il s'agit d'une demande immédiate, eh bien, il a le droit de requérir le tribunal constitutionnel par le biais de l'habeas corpus ou de l'amparo, mais les moyens de légitimer son intéressement est extrêmement large. Ce n'est pas seulement l'article 70 qui est pris en compte. Toute personne ayant un intérêt légitime dans la cause peut demander réparation, même parfois sans démontrer qu'elle a un intérêt légitime. Elle peut demander. Pour ce qui est de la falsification des actes de naissance, il est important de signaler que le registre civil est géré par le tribunal suprême électoral, qui, selon la Constitution, a un rang de pouvoir républicain. C'est un quatrième pouvoir dans la République, le pouvoir électoral. C'est donc la commission électorale qui s'occupe du registre civil pour toute personne née au Costa Rica. Au Costa Rica, on peut inscrire les enfants nouveau-nés dans tous les centres de prise en charge, salles d'accouchement, hôpitaux, etc. Qui a toujours une représentation du registre civil. Voilà les réponses à vos questions jusqu'ici.
Sí.
¿Cuántas respuestas?
Una falta.
Perfecto.
Y nada más
hay que
pedir el plazo.
Sí. Gracias, don Arturo.
Merci, monsieur Arturo.